Nous allons lire quelques textes qui serviront pour Armand pour la méditation. Ils sont accompagnés au rétro, enfin au projecteur. Déformation. Alors le premier texte se trouve dans Jérémie au chapitre 18, les 6 premiers versets. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel. Deuxième texte, dans le Nouveau Testament, 2 Timothée 2, chapitre 2, versets 20 à 22. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Troisième texte, 2 Corinthiens 4, le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous.
Comme vous avez pu l'analyser, on va essayer de chercher un peu dans le symbolisme des vases ce que Dieu veut nous dire. Il est intéressant de remarquer que dans l'Écriture, il y a plus de 50 citations ou récits qui tournent autour du vase. Et d'ailleurs, Paul va reprendre, vous l'avez vu d'après les textes, Paul va reprendre un peu cette idée des vases. Alors je mets ce vase ici pour bien symboliser un peu ce que j'essaie de vous transmettre ce matin. Parmi ces récits de vases, j'en cite deux, que vous connaissez sans doute, vase ou cruche. Parfois, il y a un échange entre les deux termes. Il y a eu la fameuse cruche sur l'épaule de Rebecca, qui a bien sûr décidé, le messager d'Abraham, de demander Rebecca en mariage pour son fils Isaïe. Et un autre récit aussi, qui revient peut-être à votre esprit, c'est cette veuve désespérée dans le livre des Rois, qui s'adresse à Élisée, qui lui parle de sa misère, ses enfants risquent de partir en esclavage. Et Élisée lui dit, prends tes vases, après s'être assuré qu'il y avait encore un peu d'huile quelque part, et puis tous ces vases ont été remplis. Vous voyez, il y a une espèce de symbolisme autour des vases. Mais pour moi, le récit le plus profond, c'est celui de la première lecture, celui du livre de Jérémie, chapitre 18, qui a une signification extrêmement profonde, parce qu'il résume bien toute cette histoire de l'Ancien Testament avec un peuple d'Israël qui se détourne et par l'entreprise du prophète Jérémie, Dieu essaye encore d'adresser un message, un ultime message en quelque sorte à ce peuple qui a un cœur rebelle, comme ça revient assez souvent dans les récits. Et peut-être pour introduire cette scène du potier, et au fond, qu'est-ce qui se dégage comme vérité profonde de ce récit, je rappellerai simplement pour moi aussi un récit de mon enfance. Nous habitions Collevray, et au bas de notre propriété, ou de la propriété que mes parents exploitaient, il y avait un ruisseau qui s'appelle le Gobet. Et sur ce ruisseau avait été construite une poterie que certains d'entre vous ont connue. D'ailleurs, il y a encore un chemin qui est marqué « chemin de la poterie » si vous passez par Colovray. Et comme enfant, on avait le plaisir et aussi la curiosité d'aller voir ce qui se passait dans cette poterie. La poterie était actionnée par un petit courant d'eau pris dans le gobelet, et il y avait deux ou trois tours, je ne me souviens plus très bien, et on guignait par la fenêtre pour observer ce que faisait le potier. Et ce qui m'est resté, c'est qu'une certaine fois, au moment où le potier essayait de construire son vase avec sa palette, son morceau d'argile qui est brut au départ, c'est presque un bloc carré, à un moment donné, cette argile ne répondait pas à ses gestes, et d'un coup de palette, au moment où le tour tournait, il a expédié l'argile dans un récipient à côté, sans doute pour toujours. Et c'est un peu ce qu'il y a dans ce récit du potier que Jérémie visite. Mais d'abord, quelques mots sur le contexte dans lequel se situe ce récit. Jérémie a été appelé le prophète de la souffrance, c'est vrai, c'est un prophète particulier qui a exercé son ministère pendant plus de 40 ans sous 4 rois, dont le premier était Joas, Joachas, Joachim, et finalement Sédéchias, qui est le dernier roi qui sera finalement déporté dans la deuxième déportation. On sait que la première déportation a lieu en 785, et qu'une partie du peuple d'Israël est partie pour Babylone. Et puis il y a un reste de la tribu de Juda et de Benjamin. Et c'est à cette partie qui reste, qui rêve, qui pense qu'ils ne vont pas échapper au jugement de Dieu, parce que c'est clair que la déportation a été un jugement de Dieu sur le fait de la désobéissance et de l'idolâtrie, de la déviation du peuple d'Israël par rapport au culte qu'il devait rendre au Seigneur. Jérémie est un homme qui a été très éprouvé. D'ailleurs, si vous passez sur la place de Saint-Pierre, vous avez une statue de Jérémie qui exprime bien ce prophète de la souffrance. Il a été humilié, on l'a même envoyé au fond d'un puits, il a été battu, etc. Et voilà que la parole de l'Éternel s'adresse à lui au milieu de, disons, cette situation qui n'est pas très enviable, qui est difficile. On est sans doute autour de 770 avant Jésus-Christ, un peu de temps avant la deuxième déportation. Jérémie va échapper à cette déportation, mais le roi Sédéchias va être emmené, et comme vous le savez, on lui a même crevé les yeux par acte de vengeance, parce qu'il s'est rebellé contre le pouvoir de Nebuchadnezzar. Maintenant, revenons à cette scène du potier. C'est une scène facile à imaginer. C'est un tour qui tourne, sans doute pas alimenté par l'eau. Je suppose qu'il y avait des pédales. Le récit ne nous donne pas de détails. Et puis, ce potier entreprend donc ce travail autour d'un vase. Et on apprend que le premier vase est raté. C'est un vase raté. C'est pas ce qu'il a fait avec l'argile, mais en tout cas, il est raté. Et il y a là toute une symbolique sur l'attitude d'Israël par rapport à Dieu. L'attitude de rébellion, l'attitude de rejet, finalement, de l'Éternel. Il y a là tout un message très profond dans ce vase raté. Si je reprends mon illustration du début de la petite poterie de Colovray, eh bien, cette argile serait liquidée, ne serait plus utilisée. Mais dans le récit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième acte. Il y a un deuxième vase qui est réussi. Donc on a un vase raté, ça c'est l'histoire d'Israël, en tout cas pour un certain nombre d'années, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Et puis il y a un deuxième vase qui est réussi et qui nous apporte une immense espérance. Alors il y a deux choses qui se dégagent pour moi très fortement de cette scène du potier dans son atelier. La première, c'est la patience de Dieu. La scène aurait pu être différente, c'est qu'elle aurait pu s'arrêter à la fin de la fabrication du vase qui a raté. Non, Dieu insiste, Dieu va continuer. Et c'est toute la symbolique qui se dégage de la patience de Dieu qui manie, qui utilise nos personnes, toujours en fonction de notre écoute, de notre disponibilité. C'est la deuxième remarque importante, c'est la question de la malléabilité de l'argile. Et tout cela nous renvoie à nos personnes. Comment est-ce que nous réagissons lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous invite à le suivre, etc. Et puis, Paul va reprendre, nous n'avons pas lu le passage, mais dans l'Épître aux Romains, c'est intéressant, Paul reprend l'image du potier. Au chapitre 9, il s'adresse plus spécialement à son peuple, aux Juifs, on sent qu'il souffre, parce que les Juifs, justement, continuent d'avoir cette attitude de rejet et de rébellion. Dans le début de l'Épître, il va exposer que le Christ est venu, le Christ est venu, personne n'est juste. Chaque personne qui reçoit le Christ est justifiée, déclarée non coupable, donc devient un vase réussi, non pas un vase raté. Et c'est Paul qui dira, « Qui es-tu, toi, en parlant d'Israël ?» pour contester avec le potier. Est-ce que c'est l'argile qui va dire au potier ce qu'il doit faire? Et à nouveau se dégage cette grandeur, cette profondeur de l'attitude de Dieu, de la patience de Dieu. Et Paul va utiliser cette expression qui nous choque un peu. Il parle des vases d'honneur et des vases de perdition. C'est intéressant, il reprend en quelque sorte les deux images qui se dégagent de la scène auprès du potier de Jérémie. Vase d'honneur, vase de perdition. Paul essaye d'avertir ses contemporains, si vous refusez la grâce de Dieu, le pardon qui vous est accordé par le Christ, vous devenez des vases de perdition, des vases inutiles, des vases ratés. Et puis Paul continue dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, où il est question de cette grande maison. Vous voyez, il y a une espèce de fil conducteur depuis ce texte de Jérémie à travers les Romains et qui nous amène dans les Épîtres. Et puis là, Paul reprend l'idée du vase. Dans une grande maison, il y a différents vases, sans doute allusion aussi à nos personnes, à nos compétences, à nos dons, à ce que nous pouvons faire, à nos services différents. C'est important de reconnaître que nous sommes différents. Je pense que c'est une réalité dans notre communauté, comme ailleurs aussi. Nous sommes différents, mais nous sommes des vases d'honneur, en reprenant l'idée de Paul de l'Épître aux Romains. Nous sommes des vases d'honneur. Mais il y a quelque chose de très important dans ce texte. Malgré que nous pouvons être des vases qui ont une apparence plus marquante que d'autres, hein, il est question de terre, de bois, d'or, d'argent, ça illustre un petit peu les particularités de nos personnes. Mais ce qui est important dans ce vase, dans ce récit, c'est ce que Paul dit dans le verset 21. Paul affirme que si ce vase n'est pas purifié, il est inutilisable. Et Paul nous invite, et je crois que c'est un message très très profond, il nous invite à veiller sur ce que nous sommes, à veiller ce que la Bible appelle la sanctification, veiller sur nos personnalités, nos caractères, nos attitudes, parce que nous avons beau être un très beau vase, il sera inutile. Et Paul dira, lorsque cette purification est en cours, elle n'est jamais terminée, on le sait très bien, ce vase deviendra un vase noble, pour un usage noble à la gloire du Seigneur. Je crois que c'est très parlant, cette allusion à ces différents vases tels que nous les voyons ici sur le tableau. Et puis Paul continue en écrivant aux Corinthiens, je pense pour que personne ne se prenne au sérieux, il dira dans un seul verset, chapitre 4, verset 7, il dira, ben voilà, vous êtes des vases d'honneur, mais en même temps vous êtes des vases de terre. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du vase. C'est le trésor qui est là. Et nous savons bien que plus nous vieillissons, plus nous apprenons que nous sommes des vases de terre, avec les faiblesses qui peuvent accompagner les années qui passent, mais ce qui demeure, ce qui est extraordinaire, c'est ce trésor que Dieu nous a donné gratuitement, nous le savons. Et cette illustration du vase de terre nous rappelle notre condition d'humanité, notre faiblesse. Mais en même temps, nous pouvons nous réjouir très très profondément. Nous avons essayé de faire par la louange tout à l'heure, pour nous réjouir de ce que Dieu nous a confié, le trésor des trésors, et que nous sommes, vous et moi, aux yeux de Dieu, des vases d'honneur, à cause du trésor qui est au fond de nos cœurs. Amen.